When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Qu'importe le contenu, pourvu qu'on ait l'ivresse, on peut lire sur Internet, on peut lire sur un écran, on peut lire sur, sur une liseuse, on peut lire sur du papier, on a lu sur du parchemin et on n'en est plus au papyrus. Donc moi, ça ne me panique pas plus que ça.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mario de Muraille, une des stars de la littérature jeunesse en France qui a donné envie de lire à des générations d'enfants et d'ados. Mes amis et collègues qui ont été bercés par ces histoires avaient des étoiles dans les yeux quand ils ont su que j'allais l'interviewer. Limite jaloux. Preuve déjà que les auteurs jeunesse marquent pour une vie entière. Ce n'est pas pourtant ce qu'on entend ces derniers temps. Pour tout vous raconter, c'est la chute d'un papier du journal Le Monde qui m'a interrogé sur la situation de la littérature jeunesse aujourd'hui. L'article en question revenait sur la crise subie en 2017 par le livre en général et le livre jeunesse en particulier, et citait un patron d'édition assénant en gros que les jeunes lisent moins et que la production jeunesse baisse en qualité. Je vous lis la citation en question. Jadis à 18 ans, on avait forcément lu le Comte de Monte-Cristo. Aujourd'hui, les adolescents peuvent rester 13 heures devant un écran à dévorer le Bureau des légendes. Et pour les plus jeunes, l'utilisation du passé simple dans le Club des 5 d'Edith Blyton a été supprimée et l'histoire encore simplifiée. Fin de citation. J'ai eu envie de savoir si vraiment la situation était telle que décrite. Je suis allé interroger ce qui se fait de mieux dans la profession, auteur, éditeur, historien. Sans dévoiler ce que vous allez entendre, on est très loin du C'était mieux avant qui est définitivement sorti du comptoir du Balto pour squatter les médias de façon pérenne et régulière. Pour commencer, redonnons la parole à Mario de Muraille qui pointe les vrais problèmes rencontrés dans l'édition jeunesse et explique comment cette industrie peut s'en sortir.
Je pense que la littérature jeunesse française se porte très bien. Ce qui se voit dans les salons à l'étranger, à Francfort, à Bologne, c'est une littérature qui est primée. Je ne vois pas du tout où est le problème quant à la qualité. C'est la quantité qui pourrait poser problème, parce qu'on publie trop, mais ça, ce n'est pas un problème jeunesse. On produit trop en littérature en général, et ça encombre les librairies, ça encombre les salons. Il y a un manque de sélection, je pense. Bon, il y a des maisons d'édition qui commencent à réfléchir à ce problème, parce que finalement, ça nuit à tout le monde. Et bon, ma maison, qui est l'école des loisirs, a très nettement pris une autre direction. Depuis peu, elle publie moins et en fait, elle vend davantage. Voilà la conclusion au bout de 2 ans. Et pour les auteurs, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi parce que leurs livres tiennent plus longtemps et sont mieux installés, travaillés beaucoup plus en amont, mieux présentés aux libraires. Les représentants ne croulent pas sous le nombre de livres à proposer, donc ils ont le temps éventuellement de les feuilleter. Parce que c'est quand même difficile de promouvoir une littérature qu'on ne connaît pas. Donc, si on leur simplifie le travail, c'est mieux pour eux, quoi. Donc là, le bilan, il est entièrement positif.
On est allé demander confirmation à Vincent Monadet, le directeur du Centre National du Livre. Et effectivement, le trou d'air économique de 2017 est à prendre avec des pincettes.
Bah écoutez, le livre jeunesse, aujourd'hui, c'est le deuxième secteur de l'édition française. En croissance depuis des années, c'est un secteur qui se porte très bien. L'année dernière a été moins bonne, l'année 2017, mais comme elle l'a été pour toute l'édition, c'est un secteur qui regroupe à la fois les albums, les romans pour petits, les romans pour moyens, les romans pour grands, et qui va jusqu'au young adult, où la frontière est très difficile à faire au-delà du marketing entre un roman young adult et un roman adulte. Et puis, c'est un secteur dans lequel il faudrait aussi intégrer toute une partie de la BD, puisque tu as toute une partie de l'offre bande dessinée qui est évidemment réservée à la jeunesse. Donc, c'est un secteur qui est plutôt le grand secteur émergent de la littérature, du livre français.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si les chiffres de 2017 sont moins bons qu'en 2016, c'est qu'en 2016 était sorti un certain Harry Potter qui a forcément tendance à tirer les chiffres vers le haut à lui tout seul. Histoire d'être certain que tout va bien, on a donc aussi posé la question à Edwige Pasquet, la directrice de Gallimard Jeunesse, et donc la responsable du phénomène Harry Potter dans nos librairies.
Alors, le roman jeunesse est un domaine qui s'est énormément développé ces dernières années, puisque vous avez eu tout un pan de littérature qui s'est créé, à savoir la littérature pour les adolescents. Pendant très longtemps, les enfants passaient de la lecture pour enfants à la lecture pour adultes, en lisant effectivement des titres Camus, Zola par exemple, que vous avez évoqués. Mais toute cette littérature pour adolescents qui s'est créée récemment et qui est foisonnante et qui passionne les adolescents n'existait pas. Donc c'est un phénomène très important. Et aujourd'hui, un certain nombre d'études sur la lecture de jeunesse disent que 87% des jeunes de 7 à 15 ans, par exemple, aiment lire. Et qu'ils ont lu éventuellement 6 livres dans les 3 derniers mois. Donc je veux dire, la lecture est vivante.
Face à l'arme atomique de l'argument « c'était mieux avant », il suffit souvent d'aller voir comment c'était avant, vraiment, pour comprendre que maintenant, c'est quand même pas mal. J'ai passé un coup de téléphone à Cécile Boulaire, maître de conférence en littérature française et spécialiste de la littérature jeunesse, pour qu'elle m'explique quelles ont été les évolutions du genre dans le temps et la perception qu'on a pu en avoir au fil des époques.
D'abord, le roman pour la jeunesse n'a pas toujours existé, il faut vraiment en être très très conscient, puisque lorsque se développe une littérature pour la jeunesse à échelle, on va dire, industrielle, hein, donc avec une production très importante, dans les années 1830, les milieux éducatifs, qui sont majoritairement catholiques, se méfient comme de la peste du roman. C'est vraiment le mauvais genre, le roman. Et donc on privilégie une autre forme narrative qui a complètement disparu aujourd'hui, qui s'appelle à l'époque l'historiette. Et on considère que le roman, c'est la forme de tous les dangers, parce que le roman qui s'est développé, on le croit à l'époque, surtout dans un lectorat féminin, bien le roman véhicule des idées de dépaysement, d'exotisme ou d'exacerbation des sentiments, qui sont vraiment très préjudiciables à une vie morale. Donc on n'aime pas le roman. Et puis au fil du siècle, à mesure que les enfants sont scolarisés et lisent beaucoup, on se rend compte que les enfants, eux, ils adorent le roman, notamment les romans d'aventure, qui à l'origine ne leur sont pas spécifiquement destinés. Et donc il va y avoir une lente contamination des livres pour enfants par la forme romanesque. Et je dirais que c'est complètement achevé dans le dernier tiers du XIXe siècle, là où apparaissent nos grands romanciers, ceux qu'on considère comme les grands ancêtres, hein, je dirais la comtesse de Ségur et Jules Verne. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le premier moment. Le 19e siècle est le moment d'émergence du roman pour enfants. Et puis le roman pour enfants, eh bien, il va suivre toute l'histoire du 20e siècle avec d'abord le développement des maisons d'édition, ensuite le développement des politiques éducatives un peu différentes, et puis l'émergence aussi de autour des années 70 de l'idée qu'il peut y avoir de la contestation de l'ordre établi dans des œuvres destinées à la jeunesse. Et donc là, vous aurez des romans qui seront un peu plus contestataires ou plus exactement qui mettront en scène des personnages qui contestent l'ordre établi.
Vincent Monadé trace lui les révolutions plus récentes qui ont profondément transformé le roman jeunesse et il revient sur l'apparition des signatures qui aujourd'hui nous parlent tous.
Il y a eu un tournant majeur en 73-74 autour de l'école des loisirs et de Gallimard Jeunesse et la littérature jeunesse produit des très grands écrivains. Elle a produit Suzy Morgenstern, elle a produit Marie-Aude Muraille, elle a produit Marie Desplechin, elle a produit Malika Ferjouk, aujourd'hui elle produit Manon Fargeton, elle produit Timothée de Fombelle, elle produit Christelle Dabos, qui est un très grand écrivain. Enfin, je ne vois pas du tout comment on peut dire ça. Je pense que quand on dit ça, c'est qu'on est assis sur sa propre jeunesse, à une époque où l'offre, c'était effectivement Bliton, Dumas, Verne. Mais Dumas n'a jamais écrit pour la jeunesse. Dumas écrivait des livres. Et il se trouve qu'on les a donnés aux enfants parce qu'on pensait que les enfants lisaient plus facilement Dumas que Flaubert. Mais Dumas est un écrivain aussi important et aussi majeur que Gustave Flaubert ou Stendhal, premièrement. Et aujourd'hui, si les prix Nobel avaient un tant soit peu de sens, ça ferait longtemps qu'un auteur jeunesse aurait eu un prix Nobel. C'est parce qu'ils n'en lisent pas, qu'ils ne savent pas ce qui se produit. Mais il y a des très très grands écrivains de littérature jeunesse aujourd'hui qui sont au-delà d'être des écrivains de littérature jeunesse, de grands écrivains.
Profitons-en pour demander à l'historienne Cécile Boulaire de tordre le cou à cette idée que la disparition du passé simple dans les livres des clubs des cinq serait le signe ultime d'une génération bête seulement à manger du passé composé.
Alors d'abord, la polémique autour de la simplification des passés simples dans le Club des Cinq, ça me fait vraiment rire parce que le Club des Cinq, à l'époque de sa parution, hein, les grandes années, ces années 50, 60 jusqu'aux 70, c'est vraiment en réalité de la production très populaire anglo-saxonne, enfin anglaise, et à l'époque, c'est très méprisé par les milieux éducatifs. Donc ça m'amuse beaucoup qu'aujourd'hui, on en fasse finalement le cheval de bataille du « c'était mieux avant ». Parce que le Club des Cinq représente ce que les milieux éducateurs et les milieux lettrés ont toujours méprisé le plus dans la littérature pour la jeunesse. C'est-à-dire des œuvres sérielles, des œuvres répétitives qui obéissent toujours au même schéma narratif. Et donc c'est très paradoxal qu'aujourd'hui on en fasse le modèle d'un texte qu'il faudrait respecter au point de devoir toujours le traduire de la même manière. Il faudrait quand même se souvenir que dans les années 50, quand on a traduit le Club des Cinq, on a fait vraiment n'importe quoi. C'était vraiment du travail tout à fait bâclé en fait en termes de traduction. On ne peut pas du tout dire que c'était mieux avant. Il y a aujourd'hui une remarquable créativité dans le domaine de la littérature pour enfants et pour adolescents. Il y a aujourd'hui on a de très grandes, on pourrait parler d'écuries d'auteurs. Il y a des éditeurs qui travaillent vraiment leur catalogue, qui ont fait émerger des noms d'écrivains, il y a des écrivains qui ont construit des univers, il y en a qui ont vraiment réussi à faire reconnaître la spécificité d'une écriture. Donc on peut absolument pas dire que c'était mieux avant. Il existe aujourd'hui en littérature romanesque pour enfants et adolescents une très large palette d'offres. Ça peut aller des productions les plus standardisées et les plus commerciales, une littérature de pur divertissement, à des textes qui sont difficiles, qui ne vont pas plaire à tous les enfants, qui seront même hors d'accès de certains adolescents par l'implicite ou le niveau de connaissance ou de familiarité avec le livre qu'ils supposent. Donc non, on ne peut pas du tout dire que c'était mieux avant. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a une offre d'une très très grande variété au sein de laquelle il y a des choses de grande qualité.
Et puisqu'on est dans les idées reçues, un succès comme Harry Potter paraît évident aujourd'hui. Or, quand il est sorti il y a 20 ans, il n'était pas dans les standards de l'époque et personne ne pouvait prédire qu'il allait révolutionner la littérature pour jeunes adultes. Edwige Pasquet revient sur cet événement qui est aussi le signe que le genre est constamment en mouvement et que les jeunes lecteurs peuvent se lancer dans des lectures plus complexes qu'on ne le pense.
Si nous avions fait une étude de marché sur Harry Potter, où nous étions penché la question et nous n'avions pas été emballés par l'essor qui était ce qui a dominé, ce qui nous a amené, il se passait deux choses. D'abord, à l'époque, les enfants n'y lisaient pas des pavés. Il ne fallait pas dépasser 200 pages. Or, immédiatement, nous sommes partis sur un pavé. Première chose. Deuxième chose, les enfants n'aimaient pas les situations complexes. Or, n'y a-t-il pas un ouvrage dans lequel il y a des situations complexes? Après, si vous voulez, je pense qu'il y a dans tous les ouvrages classiques de référence que nous souhaitons faire lire aux enfants, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir des difficultés pour rentrer dans un texte trop long, donc il peut y avoir des abrégés, il peut y avoir aussi des textes qui peuvent être réécrits par des auteurs. Vous prenez par exemple Gilgamesh, qui irait lire Gilgamesh. En revanche, Gilgamesh, écrit par Pierre-Marie Baud, vous rentrez dans une histoire fantastique. Voilà.
À ce stade de ma petite enquête, il était bon de demander à Cécile Boulaire quel rôle peut jouer le roman pour jeunesse dans l'éducation, dans l'apprentissage de la vie.
À quoi sert le roman pour la jeunesse? Vous allez avoir autant de réponses que vous avez de positions institutionnelles. Vous allez avoir des enseignants qui vous disent finalement le roman pour la jeunesse sert à peaufiner les compétences de lecture des jeunes enfants. C'est finalement un exercice de la compétence de lecture. Vous allez avoir des bibliothécaires, des libraires qui vont vous dire le roman pour la jeunesse, c'est une distraction qui est offerte aux enfants. Mais vous allez aussi avoir d'autres professionnels qui vont vous dire le roman pour la jeunesse, il a finalement une fonction d'édification, édification morale d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va transmettre des valeurs, et puis édification psychologique. Le roman va susciter l'empathie du lecteur, va lui faire découvrir d'autres manières de vivre ou de penser, et d'une certaine manière, ça va élargir son humanité.
Pour Vincent Monadet, du Centre National du Livre, il ne faut pas oublier la place que peuvent avoir les histoires chez les jeunes lecteurs et les moins jeunes. Et il fait le lien également entre série et littérature. L'important pour lui, c'est l'imaginaire.
Je crois que les jeunes lecteurs, vous diraient que les livres sont majeurs dans leur vie. Ceux qui restent grands lecteurs vous diront la même chose. D'autres décrochent, mais finalement, quand ils se passionnent pour des séries comme La Servante écarlate, etc., ils ne font que voir une autre façon d'adapter la littérature. Game of Thrones, The Walking Dead, qui est au départ un comics. Raconter une histoire, ça continue à séduire. Mais raconter une histoire et la littérature sont deux choses différentes. On peut être un très grand raconteur d'histoire, écrire des livres, et ne pas être un très grand écrivain. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. La littérature jeunesse a largement prouvé ce qu'elle valait. Elle a produit des très grands écrivains, elle continue à en produire. Mais une fois de plus, nous sommes dans un marché. Il y a des livres qui ne sont pas de la grande littérature, il y en a qui en sont. C'est la postérité qui en jugera et qui décidera. Et surtout, ce qui est important pour les enfants, c'est que tout l'imaginaire couvre la littérature. Ça, j'en suis persuadé. Je continue à être persuadé qu'il est le seul à pouvoir l'ouvrir. La capacité à imaginer, à penser, à vivre des histoires, ce qui est fondamental pour moi à rêver, ce qui est fondamental pour moi dans la construction de l'enfant, je pense que c'est la littérature qui l'offre le mieux, beaucoup plus que l'audiovisuel, oui.
Revenons à Mario de Muraille. L'auteur a l'habitude de vivre au plus près de ses lecteurs, de les rencontrer, de leur parler. Et son esprit scientifique la pousse même à analyser tous les chiffres de son secteur, histoire de mettre à plat les arguments. Il y a quelques jours, elle intervenait dans une classe. Elle nous raconte ce qui la rend optimiste.
Donc j'étais avec deux classes de cinquième pendant deux fois deux heures, donc des jeunes gens de 12-13 ans. On était à Chénès et du côté de Versailles, c'était des classes très hétérogènes avec des niveaux de difficultés dans la lecture, dans la compréhension très différents. Il n'empêche que j'ai passé un excellent moment, que ce sont des jeunes pleins de curiosité qui sont ressortis en disant qu'ils voulaient lire ci, qu'ils voulaient lire ça. Ils se sont éparpillés dans la bibliothèque, ils ont pris des livres, ils ont demandé à les emprunter. La documentaliste est repartie en disant « on va tout acheter, ne vous en faites pas ». Donc, je peux pas avoir une vision noire des choses. Alors après, je suis pas non plus naïve. Je sais que on n'est pas aux avant-postes pour ce qui est des compétences en lecture. Hein. Il y a quand même des tests qui sont faits au niveau mondial et on serait soit en stagnation, soit en léger recul pour ce qui est des compétences de lecture. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. Si vous voulez des lecteurs, il faut quand même des gens qui sachent lire. Voilà. Avant de parler d'aimer lire, parce que tous les enfants aiment les histoires, il faut qu'ils sachent lire. Je sais très bien que quand je commence à lire une histoire, j'ai le silence que les gens, ils aient 5 ans ou qu'ils en aient 60. Tout le monde aime les histoires.
Venons-en maintenant au grand méchant loup qui détournerait les enfants d'Émile Zola et Alexandre Dumas, le numérique. Comme souvent, cela peut avoir un impact, effectivement, sur les pratiques. En négatif comme en positif, comme le souligne Cécile Boulaire.
J'ai l'impression que le numérique ne change pas tant que ça les choses. Parce que les enfants et les adolescents ont des pratiques numériques qui incluent de la lecture. Ça les a incités probablement pour beaucoup d'entre eux à avoir aussi des pratiques d'écriture. Mais il me semble qu'ils lisent des livres quand ils lisent. Et que pour l'instant, rien de totalement convaincant ou massif n'est véritablement apparu dans le domaine de l'écriture pour la jeunesse. Enfin, moi, j'ai rien vu. Je suis pas un devin, je suis pas en train de vous dire que ça va rien changer, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé en profondeur du côté de l'offre, même si il faut reconnaître que, par exemple, tout ce qui est écriture de fanfiction a probablement changé un tout petit peu le rapport des enfants et des adolescents aux univers qui leur sont proposés, dans le sens où ils se sont autorisés à écrire et à partager ce qu'ils écrivaient. Et dans cette perspective, c'est là encore une avancée qui est très très intéressante.
Chez Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet est du même avis. Elle va même plus loin, car pour elle, le numérique peut amener à la lecture, mais aussi à l'écriture.
Netflix aujourd'hui peut avoir un véritable impact, c'est le temps. Alors que ça soit l'arrivée des jeux vidéo, Netflix et autres, c'est aussi le temps passé sur les réseaux sociaux. Qui est aussi un temps de lecture quelque part, hein, mais qui effectivement peut se faire au détriment de la lecture. Voilà. Mais là aussi, c'est à nous, si vous voulez, de toucher les lecteurs, de les trouver, puisque j'insiste beaucoup, nous fêtons cette année, d'une part, les 20 ans de publication d'Harry Potter, qui a quand même été, quoi qu'on le dise, indépendamment du fait de faire lire les jeunes et les moins jeunes, de les faire écrire. Ça, on le sait beaucoup moins. Quand vous allez sur Internet, vous avez, dès l'arrivée des premiers Harry Potter, des tonnes de fanfictions. Et nous-mêmes, nous sommes lancés récemment dans le prix du premier roman. Nous en sommes à la troisième édition. Mais avec le premier roman, nous avons le plaisir de découvrir un véritable écrivain, Christelle Dabos, se réfère par exemple à Philippe Pullman, dont nous fêtons aussi les 20 ans de Royaume du Nord et qui a été pour moi le fondateur de la littérature pour adolescents.
Ce que j'aime chez Marie-Aude Muraille, c'est sa manière, bien à elle, de prendre de la hauteur sur un sujet tel que le numérique et de partir de nos propres vies à tous pour en tirer des enseignements. Ça concerne la littérature, mais pas seulement. Moment déculpabilisation.
C'est toute la société, en fait, hein, qui est aux prises avec des choses très nouvelles qu'on n'a pas encore complètement apprivoisées, on va dire, que ce soit le portable ou que ce soit les réseaux sociaux. On apprend, hein, parce que je trouve qu'on fait des progrès quand même. J'ai de moins en moins des téléphones qui sonnent intempestivement quand je suis dans une conférence ou dans des rencontres de classe. Voilà, ça s'apprend, hein. Ça nous est tombé dessus très très vite. Et nous, en tant que parents, moi en tant que parent, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire en installant l'ordinateur dans la chambre du gamin, en câblant tout le monde, en offrant un portable beaucoup trop tôt. Enfin, toutes les conneries, quoi. Je les ai toutes faites. Et puis on s'aperçoit après. Et parfois, c'est les jeunes eux-mêmes qui vous disent, ben oui, ben on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. C'est trop difficile à gérer. Voilà. Donc, mais c'est assez à nous, hein, de prendre conscience de ça. C'est difficile pour nous aussi à gérer. Hein. Bon, faut que je me raisonne. Mon mari, il en est à se dire, bon, alors je regarde Facebook que le matin une demi-heure et le soir une demi-heure. Ben, je veux dire, c'est tout le monde doit travailler là-dessus. C'est tellement neuf. Ça a l'âge de nos ados, alors c'est pratiquement né avec eux, donc c'est normal qu'on soit tous un peu paumés. Alors dire que c'est une concurrence ou non, c'est un apprentissage, c'est tout. Il faut réapprendre certainement, c'est le temps long.
Autre question cruciale, c'est quoi une bonne histoire pour la jeunesse? Quelles conditions faut-il remplir pour toucher son public? Edwige Pasquet nous donne quelques clés, ce qu'elle attend, elle, d'un auteur qui veut publier chez Gallimard Jeunesse.
La première chose, c'est qu'il raconte une histoire, et Roald Dahl disait toujours, il faut avoir envie de tourner la page. Ça, c'est clair, et c'est Roald Dahl qui le disait, si vous n'êtes pas dans les page turners, voilà, Roald Dahl, et je fais confiance à Roald Dahl pour avoir emballé beaucoup d'enfants. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'il y ait une grande histoire. Quand on parle de la littérature pour les adolescents, quelle est une des caractéristiques, si vous voulez, c'est que les personnages sont eux-mêmes des adolescents ou des young adults. Et donc, avec toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent... voilà. Donc ça, c'est toute une... des choses importantes. Je crois qu'il faut toucher le lecteur, que ce soit une aventure ou que ce soit un roman qui soit plus psychologique, si vous voulez. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'authenticité, de vérité. Il ne faut pas que le lecteur ait l'impression de quelque chose qui soit surfait, calculé, voilà, où il va se faire manipuler. Je crois que pour nous, ce qui est très important, c'est de donner la parole aux auteurs. Ce sont les auteurs qui priment, c'est de ne pas faire quelque chose de cadencé ou de commandé. C'est porte ouverte à la création, porte ouverte à l'envie de raconter des histoires.
Marie-Aude Muraille est justement en train de réfléchir à une nouvelle série de romans jeunesse. Elle a bien voulu nous raconter comment elle s'y prenait pour faire naître les histoires en elle.
Je suis dans cette phase-là actuellement, de redémarrage d'une aventure à écrire un livre. Et donc, d'abord, je suis en immersion complète avec mon sujet. Donc, il faut, moi, que ça me passionne. Il faut que j'ai envie de transmettre quelque chose. Il faut que je trouve mes personnages, puisque c'est eux qui vont emmener mon lecteur. Et des moments où je suis assise, les yeux dans le vide, et j'écoute mes personnages parler. Voilà, j'essaie de les faire naître. Et donc, à partir du moment où ils vont commencer à vraiment m'intéresser, voilà, je pense que je vais pouvoir vivre avec eux.
Et le style alors? Comment on fait pour trouver un style qui convienne aux jeunes lecteurs?
Il faut que ce soit un chemin dégagé. Je suis quelqu'un de la ligne claire. Tintin. Donc, je suis de la ligne claire. Il faut pas qu'il y ait autant le contenu peut être puissant, peut vouloir dire beaucoup, autant il faut que ce soit facile à lire. Je ne crois pas que les choses les plus profondes soient automatiquement les plus obscures. Voilà. Donc j'essaie d'être lisible. Donc je travaille énormément sur la lisibilité. Je dis parfois il faut pas que ça tire un froncement de sourcil, il faut vraiment que ça emmène. Donc, par contre, que ça puisse faire réfléchir, oui. Mais pas que ça fasse buter.
Les réponses à mes questions sont claires. La littérature jeunesse est bien vivante. Pour conclure, j'ai demandé à une lectrice, désormais adulte, des livres de Marie-Aude Muraille, de me dire quel impact avait eu cet auteur pour elle, ce qu'elle lui avait apporté, afin d'essayer de comprendre la place que peut avoir ce genre de littérature dans nos vies. Je vais vous lire ce qu'elle m'a répondu. Marie-Aude Muraille m'a apporté des heures d'évasion, de bonheur, de relecture. Mais surtout, elle écrit sur nous. Et même quand elle n'écrit pas sur nous, son style ressemble à notre façon de parler. Il n'y a pas de bons sentiments, pas de contes de fées. La vie n'est pas parfaite, tout le monde a des défauts. Mais du coup, c'est la vie, c'est notre vie. L'histoire de gens bancals et de vie banale. On s'y retrouve. Fin de citation. Pour ma part, je n'aurais pas trouvé meilleure conclusion.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.